Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 11h et midi avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric. Tzahal Hemel, vous vous rappelez de ce petit village, oui, de Chiapas, là-bas au Mexique, la croix est encore au centre de la place.
Dimanche dernier, nous avons fait connaissance d'un couple célèbre qui va devenir carrément un couple de saints.
De Dieu, presque.
De Dieu, oui.
Rappelez-vous, Agustina est devenue la mère des dieux. Pedro est habillé de blanc comme un prêtre. Ce sont deux indigènes. Elle avait trouvé, vous vous en rappelez, des petites pierres d'obsidienne. Et à partir de là, elle connaissait le futur. Elle avait créé un oracle. Pedro transmettait tout cela à la foule des Indiens qui se réunissent chaque jour un peu plus facilement du côté de Tzahal Hemel et qui abandonnent carrément tous les villages indiens qui sont autour de San Cristobal au moment du culte, au moment des grandes fêtes. Et puis le pouvoir, petit à petit, est donné à Pedro, qui le prend, qui crée tout un réseau de nouvelles autorités parallèles qui n'ont plus rien d'indigène, qui n'ont plus rien à voir avec la ville de San Cristobal, qui est la petite ville capitale de ces hauts plateaux des Chiapas mexicains. Et finalement, en 1869, on était arrivé jusqu'à ce moment le plus dramatique, c'est-à-dire le moment où ce couple qui a créé une véritable, non pas rébellion, on n'y est pas encore, on en parlera aujourd'hui, mais ce moment assez intense où on sait qu'ils ont tous les pouvoirs sur une région de plusieurs centaines de milliers d'Indiens par rapport à quelques dizaines de milliers de Métis et de Blancs. Il y a la peur, il y a la crainte, tout le commerce a été vidé de San Cristobal, le marché se fait maintenant dans ce nouveau petit village qui a pris tous les pouvoirs. Tzahal Hemel, c'est devenu le centre du monde de ces Mayas des hauts plateaux et l'armée va s'en mêler, les prêtres, l'évêque, finalement Pedro et Agustina ont été arrêtés et curieusement ceci n'a rien arrêté, je veux dire par là que les oracles, tout ce qu'ils avaient fait auparavant, vous vous rappelez qu'Agustina avait perdu ses pierres, on les avait prises ensuite,
une statue de
saint qui a été prise aussi et puis ensuite ils ont carrément trouvé un véritable clergé, des femmes de leur entourage ont été transformées elles-mêmes en saintes, elles sont habillées de façon somptueuse, ces autorités sont tenues maintenant par des gens qui savent lire et écrire l'espagnol, c'est-à-dire qu'on est en train de recréer une sorte de pouvoir presque espagnol par des Indiens. Une sorte de colonisation indienne au milieu de quelque chose qui ne correspond plus à la colonie, puisque nous sommes en 1868-69 et qu'au Mexique, on est dirigé par le président Juárez, qui est le seul président vraiment un peu coloré, un peu indien qui existait au Mexique et qui lui vient de créer la réforme, va s'occuper de Maximilien, va le fusiller. C'est une période qui est tout à fait nouvelle où on va créer une nouvelle constitution, on va vraiment transformer le pays en un pays laïque et non plus un pays tenu par la religion et le catholicisme. Donc il y a des changements tout à fait remarquables dans le pays. Et vous vous rappelez de cet événement de la Semaine Sainte qui va se déplacer véritablement de Chamula, du centre de Bochum, à Tzahal Hemel. Et là, les deux héros, si je peux dire, ces deux dieux sont en prison. Et malgré cela, lors de cette Semaine Sainte, on va créer un Vendredi Saint tout à fait particulier, puisque sur la place même où on tenait les grandes réunions, on va fixer une grande croix, on va sortir de l'église, enfin du temple comme on l'a appelé, je crois même que j'avais dit la pagode, parce que c'était comme ça qu'on l'appelait à l'époque, on ne nous faisait pas dire église parce que ça n'était pas une. Ce temple qui avait été construit de toutes pièces dans ce petit village, et on va prendre le frère d'Agustina, qui devait avoir quelque chose comme 10, 11 ou 12 ans, et ce pauvre petit Domingo, on va d'abord l'attacher à cette immense croix de bois, on va lui clouer en même temps les mains et les pieds, exactement comme le Christ, et les saintes qui sont restées libres, celles qui accompagnaient nos deux demi-dieux, se mettent sous cette croix, et elles sont là avec des coupes, et elles sont en train de reprendre le sang qui coule, lorsque l'enfant est en train, en fait, de cette pauvre victime, est en train de rendre l'âme dans des souffrances absolument atroces. Oui. Alors ça, c'est quand même un moment absolument fou, mais vous savez que juste derrière, il y a eu un événement curieux. On était donc à Pâques, au mois de mai, on en a déjà parlé, on a parlé de ce fameux Ignacio Galindo. Galindo, c'est la première fois, il y avait sa femme aussi, qui s'appelait Luisa Quevedo, et puis un couple d'amis. Voilà des gens qui viennent carrément de l'extérieur et qui partent de San Cristobal déguisés métissé. Il ne faut pas l'oublier, pour la première fois, on rentre dans le monde métisse et blanc. C'est-à-dire que cet homme va d'abord retourner à l'endroit où est né le lieu d'origine de notre ami Pedro, enfin ami si l'on veut, Diaz Cousquet. Je crois que vous aimez bien le nom de Cousquet, oui, qui est son surnom. Et c'est là où se trouvait en fait la femme de Pedro. Lui est emprisonné, ça nous le savons, et on déclare simplement que il a été incarcéré, mais qu'on va vouloir l'idée de base, c'est que ces gens qui se déplacent de façon presque un peu révolutionnaire disent on va libérer Pedro et nous avons le pouvoir de le faire. Alors il fait une chose incroyable dans ce petit village qui est le lieu d'origine de Pedro. Il va endormir, vous vous rappelez de cette idée d'hypnotiser des enfants. Il prend des jeunes adolescents et il les prend sous son pouvoir, il les endort et au bout de quelques minutes, on imagine bien la scène, c'est carrément David Copperfield. Il réveille les enfants et il dit à tout le monde, ils étaient morts, je suis capable de ressusciter. On retrouve la même idée christique que tout à l'heure. Et il annonce même, comme dans le cas du christianisme, que tous ceux qui vont partir à l'attaque de la ville de San Cristobal et qui vont rechercher les deux demi-dieux dans leur prison, vont mourir, bien sûr qu'ils vont mourir. Il y a l'armée en face, il y a des fusils, les Indiens n'ont rien du tout. Eh bien, ils vont ressusciter après 3 jours. Il promet qu'il est capable de les ressusciter comme il l'a fait par hypnotisme sur ses enfants. Alors là, il y a un moment absolument fou, puisque ses fidèles vont commencer à y croire, et immédiatement, là, il y a vraiment quelque chose d'insensé dans la tête de tous ces Indiens. Non, mais il y a d'abord le fait qu'on le transforme en Saint Matthieu. Vous vous rappelez de ça? On lui donne un titre. Mmh. Chaque fois, on était en train de diviniser ces héros, enfin ces étranges personnages qui arrivent les uns après les autres sur notre scène de roman fleuve. C'est un peu le roman fleuve, il faut avouer. Et vous vous rappelez aussi que la femme de Galindo va être appelée carrément Sainte Marie. Donc elle devient la Vierge, comme on avait la mère des dieux pour Dominga, voilà qu'on trouve même moyen d'avoir une Marie, une Sainte Marie là au milieu. Alors il va trouver le plus vite possible tous les Indiens qui ont été castillanisés. Vous vous rappelez que l'idée de la castillanisation, ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà subi des influences blanches, qui ont été mêlés au monde des métis et qui sont capables d'écrire, etc. Il va les transformer en lieutenants. Il est en train, pour la première fois,
on
monte une armée. Mmh. Et non seulement on monte une armée, mais on va utiliser tout le réseau des autorités locales que notre fameux Pedro avait mis en place dans les Chiapas. Et on va naturellement... Bon, il y avait l'idée du culte au départ, mais maintenant c'est pour des raisons militaires, puisqu'on va réussir à réunir plusieurs milliers de volontaires et on va leur donner... Ça, vous vous rappelez qu'on avait utilisé en fait un vieux manuel de l'armée fédérale pour les instruire de façon militaire. Et vers la fin du mois de mai, eh bien... J'imagine très bien qu'il n'y avait plus un ladino, je crois que le terme maintenant on le connaît, les ladinos ce sont naturellement les blancs et les métis, il n'y a plus personne qui ose s'aventurer dans ce territoire des Chamoulas qui est immense. Il faut remettre le paysage en place avec ces collines incroyables, cette Santé 8, ce sommet fantastique qui est vraiment la maison sacrée des dieux, cette espèce de pyramide naturelle. Et les autorités de San Cristobal parlent toutes d'un homme qui est blanc, d'un homme qui est barbu. Galindo, ça devient vraiment celui qui est capable de manœuvrer des bataillons d'un Indien, une armée qui est là justement au pied de cette montagne, de ce Tsontewitz, à quelques kilomètres de Tsahahemel, tout près de San Cristobal. Et la nouvelle, elle plonge San Cristobal dans une inquiétude qui sera de plus en plus vive. Ça va monter, ou plutôt descendre, parce qu'il habite tout en bas, là, dans les terres tropicales, jusqu'à la maison du gouverneur.
My breath, close my eyes.
Galindo a son armée et il descend donc sur San Cristobal.
Pas tout de suite, non, pas tout de suite. Il y a vraiment ce premier moment de terreur que j'évoquais, c'est-à-dire ce moment d'inquiétude qui fait que non seulement on parle au gouverneur de l'État, lui, ce qui est curieux, c'est qu'il prend absolument pas au sérieux la chose. Il pense même pas que Galindo est un danger. Il refuse totalement d'envoyer ses troupes et des renforts sur les hauts plateaux parce que la capitale, c'est Chiapa. Ça n'est pas encore Tuxtla Gutiérrez comme aujourd'hui, mais Chiapa et Corzo, c'est à 300 mètres d'altitude. Je parlais de tropique, c'est très en bas. Il y a d'ailleurs, quand on parle de San Cristobal, on monte à 2500 mètres et puis ensuite vous avez 80 km de virage absolu qui vous font plonger de 2500 à 300 mètres, donc c'est vraiment deux mondes différents. Et on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe là-haut, on n'est absolument pas au courant de ce qui se passe chez ces Indiens qui sont perdus sur ces hauts plateaux. Alors il y a quand même une chose assez curieuse, c'est qu'au mois de juin, à mi-juin à peu près, il y a le curé. Une fois de plus, le curé de Chamoula qui se réveille, et il a pris avec lui l'instituteur, il a pris le frère de l'instituteur, et puis deux Indiens qui sont des fidèles, qui sont sûrement des catéchumènes ou des gens qui sont souvent à l'église et qui sont rangés, disons, du côté bien catholique et qui n'ont pas du tout adhéré à ce nouveau mouvement. Et ils partent ensemble à pied à Tzahaemel. Et là, à Tzahaemel, bien, ils vont prendre conscience du pouvoir de Galindo. Mais ce qui est important, c'est qu'ils aimeraient lui parler et lui faire comprendre à lui que ce qui fait est très grave. Ça, c'est de nouveau le curé qui se réveille.
Lui, il ne veut rien savoir.
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas là. Il n'est pas du tout à l'endroit et ils ont peur. Ils sentent déjà quelque chose d'assez curieux. Et ces hommes vont marcher encore quelques, je dirais presque 20 kilomètres pour aller se réfugier dans un presbytère à Chenalo, qui est beaucoup plus loin. Déjà une terre un petit peu semi-tropicale, mais du côté de la jungle, à 1800 mètres, grosso modo, d'altitude. Et puis, ils y passent la nuit en sécurité. Et le lendemain, les cinq hommes retournent à Tzahaemel. Et là, Galindo est toujours absent. Alors, ils sont vraiment déçus de leur échec. On leur avait dit qu'il était là. C'est typiquement ces palabres indiens. Et ils sont d'abord, alors là, ils sentent vraiment le danger. Vous savez, quand on est pris dans une grande fête à Chamoula ou qu'on vit un instant très fort dans une église, et puis qu'il y a un moment d'agressivité parce que quelqu'un a bu ou qu'il y a un événement comme ça où deux personnes commencent à se battre, ce qui est très rare chez les Indiens, vous sentez immédiatement une électricité, quelque chose d'incroyable. Et là, c'est ce qui a dû se produire. Ils sentent que les Indiens ont, ont adopté une attitude complètement différente à leur égard. Ils repartent à Bohom, ils retournent du côté de Chamula. Chamula, Bohom, c'est la même chose. Et à mi-chemin, ils vont être assaillis par plusieurs dizaines de Chamula. Et le seul qui va survivre, c'est un des petits serviteurs du prêtre, là, qui va réussir à s'échapper. C'est le seul qui va survivre au massacre et il va arriver à donner l'alarme. Alors, en fait, vous avez raison, Frédéric. Galindo a déjà ouvert les hostilités et à la tête de ces insurgés, parce qu'on peut les appeler comme ça maintenant, il est en train d'opérer une espèce de vaste mouvement dans le nord de la région de manière à avoir ses arrières libres pour attaquer, alors là vraiment, la ville de San Cristobal. Et on a la date précise, le 13 juin, il est déjà à Mitontic. Alors il faudrait prendre une carte bien sûr pour voir où ça se trouve. Ça, Mitontic, c'est justement du côté de Chenalo. Il arrive à Chenalo où il s'était réfugié. Là, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on a fait un grand détour, donc on remonte là dans ces terres semi-tropicales complètement à l'opposé de Chamula. On arrive à Chachihuitan, on arrive à San Andrés, le 15 on est à Santiago, Santa Marta, Santa Magdalena, tous ces petits villages nous font maintenant petit à petit nous rapprocher de la ville, et partout où il pince, il fait quelque chose de terrible, il détruit absolument tous les domaines, il fait massacrer tous les propriétaires ladinos, parce que toutes les bonnes terres étaient naturellement aux mains des métis ou des blancs, et il va libérer alors tout ce qui correspond à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a encore des serfs. Les Indiens sont encore de véritables, je ne vais pas dire esclaves, ce n'est pas le mot qui correspond, mais des serfs comme au Moyen-Âge. Et en fait, ils libèrent tout le monde. Et en 4 jours, il y a une dizaine de ces fincas, comme on les appelle. Les fincas, c'est surtout pour le café, c'est surtout pour... à l'époque, ce n'était pas encore vraiment la mode, c'est surtout au 19e.
Qui deviennent des insurgés.
À la fin du 19e, qui deviennent naturellement des insurgés. Toutes ces fincas, ces plantations vont être pillées, elles vont être incendiées. Il y aura des centaines de ladinos qui vont être assassinés. Et il y aura plusieurs milliers de baldios, comme on les appelle, les serfs, hein, donc ces ouvriers agricoles, qui vont être mis en liberté. Alors là, ça va être le bien sûr, vous avez raison, c'est le noyau dur et pur des insurgés, de l'insurrection qui est en train de se former avec ces gens qui viennent d'être libérés de l'esclavage. Et le 17 juin, Galindo et ses troupes, on les voit déjà arriver, déferler véritablement sur le flanc nord de la ville de San Cristobal. Ils sont en train d'assiéger la cité.
We'll be right back.
Galindo et son armée sont aux portes de San Cristobal. Comment les gens qui sont sur place, d'abord j'imagine qu'ils étaient surpris.
J'aime bien voir ça prendre le feuilleton là, Frédérica. C'est vrai que c'est un peu le roman fleuve. Mais à l'intérieur de la ville, c'est la confusion absolument totale parce que les ouvrages défensifs.
Vous s'y attendez pas déjà.
Pas vraiment, parce qu'on a juste essayé d'ordonner une construction qui n'est pas du tout terminée. Il n'y a pas de vivres, il n'y a pas de munitions. Les troupes qui sont attendues de Chiapa ne viennent pas. Le gouverneur n'a pas vraiment réagi, vous vous en rappelez. La garnison locale, bon, on sait qu'il y avait à peu près 90 personnes. C'est rien du tout. J'attends 80 ou 90 personnes. 80, c'est rien du tout. Et finalement, quand on voit les milliers indiens qui sont à la porte de la ville, c'est impressionnant. Ils sont mal équipés, ils sont mal armés, c'est un désordre absolu. Et le chef de la le chef qui maintient en fait et qui défend San Cristobal, il s'appelle Rosas. C'est son nom de famille. Il s'appelait Crescenzo Rosas. Eh bien, lui, il dit carrément que San Cristobal, c'est absolument indéfendable. Alors, il va ordonner aux femmes et aux enfants de se réfugier dans les églises, et puis il espère surtout que les Indiens vont respecter au moins ces lieux sacrés et bien catholiques. Et afin de gagner du temps, eh bien, Rosas, il va demander il va essayer de parlementer avec Galindo. Et il y a une entrevue, là, on sait même où elle s'est produite, à la bord d'Esquipulas. On va voir le principal corps de l'armée indienne qui est là et qui avait pris position à cet endroit. Et après plusieurs heures de discussions, Rosas, il a tout essayé, hein. Ça c'est de la dialectique absolue, au bout d'un moment on n'en peut plus, et finalement l'accord provisoire est assez curieux puisque on décide simplement
de relâcher.
Mais c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux parce que Rosas s'engage à rendre aux Indiens Pedro, donc notre fameux Pedro Diaz Cusquet et notre Agustina Gomez Checheb, et il déclare aussi qu'il va libérer la mère. Vous vous rappelez que la mère de celle-ci avait aussi été faite prisonnière. Et en revanche, Ignacio Galindo lui-même et Luisa, sa femme, ainsi que Trejo, qui était son compagnon de route, ils vont rester en qualité d'otage à San Cristobal. Ça paraît complètement aberrant. Donc le chef reste et on libère les dieux finalement.
Galindo n'est pas du tout d'accord, j'imagine.
Ben si, ce qui est curieux, c'est que ça va être entériné. Et les lieutenants de Galindo, lui, promet simplement qu'il va revenir à Tzahalemel. Et l'armée, elle promet, tous les Indiens disent, ok, on retourne dans les 3 jours, on sera tous de retour, on va tout abandonner. À la nuit tombante, tous les Indiens lèvent le siège de la ville, ils évacuent la vallée, ils sortirent sur les hauteurs et ils partent avec l'oracle, enfin avec notre fameux Pedro et puis la mère des dieux. Quant à Galindo, eh ben, lui, il habite San Cristobal. Donc, il imagine qu'il va pouvoir rentrer chez lui. Ça paraît aberrant.
Ouais.
Et c'est comme ça que c'était convenu avec Rosas. Et Rosas lui dit, non, il faut faire une petite enquête. Alors, Galindo et Trejo, ils vont être arrêtés, bêtement. On va les juger, sommairement. Et le 26, ils vont être fusillés, tout simplement, carrément. Ouais. On les met sur la place principale de San Cristobal. Et la veuve de Galindo, c'est la seule qui va survivre. Elle sera simplement tenue à la disposition des autorités judiciaires, comme on le dit aujourd'hui. Hein. Mmh. Et le 21 juin, comme personne ne revoyait Galindo revenir, et ils ont imaginé ce qui lui est arrivé, les Indiens vont revenir. Nouvelle descente sur San Cristobal avec 2 corps d'armée, et le premier est naturellement tenu par Pedro Diaz Cusquet. Il attaque la ville, là il reprend ça par le nord comme d'habitude, et puis le second au nord-ouest, l'ouest de la vallée, et on est aux premières heures de la matinée. C'est un moment extrêmement fort, il y a des vagues successives, les assaillants qui déferlent sur toutes les positions des défenseurs, et il faut pas oublier qu'ils n'ont pas peur de la mort, hein. Ils croient toujours qu'ils vont être ressuscités dans les 3 jours. Et
ils croient toujours à
un effet psychologique.
Que Galindo est vivant, donc.
Alors, ça, ils ne savent pas. Mais ce qui est important, c'est qu'eux, on leur a promis, de toute façon, c'est pas Galindo qui ressuscite. Mmh. C'est le fait que, grâce à toutes ces idées divines, ces inventions, obligatoirement, vous mourrez, mais vous ressuscitez 3 jours après. C'est exactement une idée christique que l'Indien interprète et comprend comme ça. Donc, Galindo ou pas, ils vont carrément au peloton sans problème. Et alors, bon, bien sûr que tout est enfoncé rapidement. Les premiers renforts qui sont arrivés de Chapa essayent de défendre tout ça, mais finalement, on va abandonner la ville aux Indiens, en tout cas une bonne partie. Ils progressent ainsi de maison en maison. Et Rosas, il est complètement paniqué. Il va organiser une seconde, comment est-ce qu'on peut appeler ça, une sorte de ligne de défense autour de la place principale de San Cristobal. Et puis soudain, au moment où il y a la nuit qui tombe, il se passe quelque chose d'incroyable. Les Ladinos étaient sûrs d'être fichus. Il ne reste plus que le centre, c'est-à-dire la cathédrale, la place principale. Quand on visite San Cristobal aujourd'hui, on se dit c'est rien. C'est un pâté de maison qui restait avec toutes les femmes et les enfants dans l'église. Bah, au moment où la nuit tombe, au moment où vraiment ils sont victorieux, bah, tous les assaillants arrêtent leur offensive et puis ils se replient en bon ordre. Ils retournent à Chamoula tranquillement, comme s'ils rentraient chez eux, et ils emportent leurs morts et leurs blessés. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais d'un seul coup, tout est abandonné. Alors, c'est quand même incroyable parce que le siège de San Cristobal, c'est définitivement fini. Le siège est levé, on n'en parle plus. Et le 24 juin, Pedro, il a toujours ses troupes, bien sûr, et il y a de tous les villages environnants, et ils vont se soulever à son arrivée. Il y aura des sortes de campagnes incroyables encore à l'extérieur, mais on essaie de joindre les équipes, on se retrouve à Chamoula, et finalement, tout le monde retourne jusqu'à un autre petit village un peu éloigné, et c'est là que le 30 juin, ils sont eux-mêmes surpris. C'est-à-dire qu'à l'autre bout, le gouverneur a réagi, et il y a 400 hommes que le gouverneur de l'État s'est finalement résolu à envoyer sur les hauts plateaux, qui viennent défendre San Cristobal. C'est un combat qui va durer quelques heures. Alors, c'est une confusion très curieuse. Là, vraiment, il y a des moments de l'histoire qu'on ne comprend absolument pas, parce que dans les rangs des insurgés, tout le monde a peur, et c'est la débandade totale, et on laisse, à la fin de ce combat, 300 morts indigènes, j'ai envie de lire le journal, hein, le Baluarte. On nous dit simplement, nous avons le plaisir d'annoncer que hier, dans la matinée, nous avons reçu une information officielle selon laquelle, la veille du 30 juin, le gouverneur de l'État a fait une entrée triomphale dans la ville de San Cristobal de las Casas, après avoir mis en complète déroute les barbares indiens rebelles de Chamoula, qui ont déclenché la terrible guerre des castes.
All right. walking down the street. We're looking for a place to stop, have a bite to eat. We hunger for a bit of faith to replace the fear. We water like a dead bouquet. Does no good, does it, dear?
Ils arrivent finalement à se faire expulser du village de Tarhamel, c'est ça?
Tarhamel, oui. Voilà. Non seulement ils se font expulser, mais tous les villages se font prendre les uns après les autres. Ils sont repoussés de plus en plus loin. Et finalement, ils vont rester à peu près 800 partisans. C'est ceux qui étaient justement dans les fincas de tout à l'heure, les serres, comme on les a appelés. Et ils vont finalement construire de toutes pièces un nouveau temple, une centaine de maisons
dans autour. Un autre village.
Non, de rien. En pleine nature, à côté d'un village, et c'est un lieu dit comme ça, qui s'appelle Sissim, et finalement ils vont se retrancher, ils vont creuser vraiment des tranchées, ils vont creuser tout ça, ils vont faire des ouvrages défensifs, et ils attendent une attaque. Alors là je dirais qu'on rentre dans une nouvelle phase, et de façon presque moderne, on peut dire que c'est le début d'une véritable guérilla, parce que ça n'est pas évident du tout d'attaquer cet endroit, et ils ont semé la terreur un peu partout, même s'ils ne sont que 800. Et il y a un Chamoula lui-même, qui était resté du côté loyaliste, si je peux dire, qui va prendre la tête de tout ça et qui va lutter et qui va créer ce que j'appellerais l'idée de la terre brûlée. C'est-à-dire petit à petit, on va s'organiser, il y aura de véritables milices, il y a les instituteurs qui vont s'y mettre, une fois de plus les curés. On pourchasse véritablement les insurgés jusque dans leur refuge. Et dès qu'on sait qu'il y a des insurgés à quelque part, on incendie tout. Hein. Les champs, les hameaux sont complètement détruits, les habitants sont évacués, on les regroupe tous sur la place centrale, sur le Tekloum, et on les enrôle de force dans les milices loyalistes, si je peux dire. Alors, c'est une politique de terre brûlée, ça je l'ai dit aussi, mais c'est une amnistie totale qui sera simplement faite à ceux qui déposent les armes, ceux qui prêtent serment au gouvernement, et petit à petit, tout le monde va revenir aux autorités normales, aux autorités ladina. Alors le 27 juillet 1870, Sissim est finalement pris après 3 jours de combat. Pedro et Agustina, puisque vous avez tellement envie de savoir quel est leur sort,
et comment
ils parviennent encore à s'échapper. On n'y croit pas, mais il n'y aura plus de foyer d'insistance. Ils n'arriveront plus à recréer tout cela. Pedro va mourir bêtement, normalement, l'année suivante. Il était abandonné de tous. On sait qu'il est mort dans une grotte. C'est fou hein, de finir comme ça, où il a trouvé refuge. Agustina, personne n'a jamais plus entendu parler d'elle. On ne sait absolument pas ce qu'est devenue la mère des dieux. Peut-être que de façon magique, elle est retournée voir ses obsidiennes qu'elle avait trouvées dans un champ en gardant ses moutons. L'ordre est maintenant rétabli. Ça a quand même coûté la vie à plus d'un millier de personnes. Hein. C'est pas une petite histoire. Il y a eu 200 ladinos qui sont morts. Il y a 800 indiens qui ont été abattus. Et bien sûr que quand je parle de 800 indiens, quand on connaît les chiffres de tout ce qui existe depuis la colonie jusqu'à aujourd'hui, on peut carrément mettre un zéro derrière. Parce que vraiment, c'est le cas. Alors qu'est-ce qu'on peut donner comme conclusion à ce roman feuilleton, c'est qu'aujourd'hui, les Tzotzil, lorsqu'ils trouvent une petite lamelle ou un grattoir d'obsidienne sur les sites archéologiques, parce qu'on utilisait ça comme rasoir, hein, comme couteau à l'époque précolombienne, et lorsqu'ils en trouvent en retournant leur champ, et ils disent toujours que c'est des messages de Shauk. Shauk, c'est le dieu de la foudre, le dieu du tonnerre, le dieu qui est celui qui dispense la pluie, hein, le Zeus, vraiment des Indiens. Et ces pierres de foudre, elles ont un caractère un petit peu ambivalent, c'est normal. Elles peuvent signifier, quand on les trouve, l'abondance ou éventuellement la famine, la maladie, la mort. Et puis, naturellement, qu'elles ont toujours cette idée de message dont elles sont véritablement investies. Et pour la plupart, elles restent muettes, mais de temps à autre, comme en 1869, elles peuvent commencer à devenir des pierres qui parlent. Alors, les saints parlants. Ça, on en a vu aussi, ils remplissent toujours dans cette société la même fonction. Ce sont des statues de bois, on peut avoir n'importe quel saint, et ça fonctionne toujours dans les statues. Il y a toujours cette idée de surnaturel, et on est appelé en songe, on peut devenir oracle, on peut devenir un saint soi-même. Le rêve, c'est également l'endroit où le saint va se révéler à quelqu'un. Le saint, il a réponse à tout, il vous donne l'idée de ce que va devenir votre vie, votre espérance surtout de vie, la longueur d'une vie, toujours l'abondance des récoltes, enfin les choses dont on a besoin. Comme Saint Antoine, ça localise par exemple les objets perdus, lorsque vous avez perdu un animal, on vous dit si le sorcier est bon ou mauvais, les maladies. Donc les saints parlants, ça existe toujours, on en rencontre. En 1950, il y en a eu un très très drôle qui est arrivé sur place, c'était un saint parlant, c'était un ladino. Donc un blanc qui était ventriloque. Alors il avait trouvé le truc et il
arrive. Pratique.
Bah oui, c'est
pratique.
Génial. C'est vraiment le petit truc qu'on voit à la télévision. Ça marchait. C'était devenu un saint parlant. Il avait son petit saint à côté. Et c'est simplement pour montrer que sur le plan de ce qu'on vient de vivre, il y a quand même une réponse à donner. C'est que chaque fois que dans les Chiapas ou chez les Indiens de n'importe quel endroit du Mexique ou du Guatemala, il y a un vrai mouvement d'insurrection, quel qu'il soit, ça a toujours un caractère messianique. Le messianisme, c'est quelque chose qu'on comprend fort bien. C'est un peu l'idée qu'on retrouve jusqu'au Pérou. Le jour où l'on arrivera à retrouver les bras, les jambes de l'Inca, et qu'on arrivera à recoller cela sur son corps, puisqu'il a été découpé en morceaux sur la place de Cusco, tout à coup, le pouvoir indien reviendra, et il sera plus puissant, naturellement. Il sera même remplaçant, si je peux dire, du pouvoir ladino. On recrée véritablement l'univers précédent. Une vraie théocratie de la puissance.
Sure. said it won't be broken someday. Seems like I have come to that fateful day. So I sit on the floor with my head in my hands.
Quand il part comme ça attaquer une ville et se défendre ou attaquer le régime colonial, c'est tout simplement pour restaurer en fait l'ordre ancien, c'est ça l'idée de base. Et quand ils ont crucifié cet enfant, c'est simplement pour avoir un sauveur qui est vraiment à eux. Donc on pourrait dire en conclusion que les Tzotzil ou les Tzeltal, ces Indiens Mayas, eh ben, ils ont carrément interprété leur état d'infériorité. Et là, je parlerai même de l'infériorité religieuse dans laquelle ils sont maintenus par le clergé. C'est vrai, ça se remarque partout, ça se remarquait en tout cas. Ben, pour eux, c'était la cause essentielle de leur dépendance économique et sociale. Donc c'est vraiment une réaction tout à fait naturelle. Donc en captant la religion qui donnait aux colons, c'est-à-dire aux Espagnols, toute la puissance, ben, ils parviendraient aussi à réaliser leur émancipation et en s'emparant, je vais dire carrément, du catholicisme et de tous ces rites, de tous ces sacrements, et c'est ce qu'on a vu. Hein, mm-hmm. Et ils vont donner le moyen de rivaliser avec les Ladinos et même peut-être de les supplanter. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir recréer une société aussi puissante que celle des Espagnols. Ce qui explique sans doute cette espèce de force avec laquelle les chefs de notre mouvement là n'ont cessé de dire en fait on est orthodoxe, on est en train de monter un système qui ressemble étrangement au catholicisme avec toutes des règles. Vous avez remarqué que jamais ils en étaient sortis et que finalement ils étaient absolument impeccables dans leurs fonctions. Il n'y a que Galindo qui était assez étrange. On peut se poser la question de savoir qui il était. Alors là, c'est peut-être l'aspect le plus troublant de l'insurrection de 1869, parce que pour les Chamula, Galindo c'est un salik, c'est un chalik. Chalik ça veut dire le sauveur. Et c'est vrai que on l'a pris véritablement comme quelqu'un qui pouvait les mener au combat et à la victoire. Il y avait un côté presque prémonitoire. On attendait ce genre de messie.
Il y en a eu d'autres.
Dans l'histoire. Bien sûr, ça c'était qu'un exemple d'insurrection, mais un siècle avant, je dirais même aujourd'hui, avec le mouvement qu'on vient de subir dans les Chiapas, on sent cette idée messianique. C'est de nouveau un blanc qui est un universitaire, qui arrive exactement comme Galindo, qui en fait était à Mexico un petit instituteur métis et qui finalement devient soldat dans l'armée fédérale. Et puis, une fois qu'il a connu le manuel d'instruction là de cette instruction militaire, une fois qu'il était démobilisé, il est devenu directeur d'école à San Cristobal. Et finalement, et c'est une sorte de promotion, mais c'est là qu'il a rencontré sûrement Terro, ses différents amis politiques. Et on imagine aujourd'hui, en analysant vraiment la rébellion, que ce mouvement indien a été complètement manipulé en même temps. Mmh. C'est-à-dire que si vous observez la fin tellement étrange comme ça, on a l'impression que Galindo est un vendu et qu'il a lâché les deux personnes parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et il a obligé les autres à le faire. Mais en même temps, on a l'impression qu'il est manipulé par les Ladinos et qu'on va se servir d'une sorte de stratégie de conquête du pouvoir à l'intérieur de cet état des Chiapas. Et ça se passe encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est des choses qu'on sent très bien. On peut manipuler l'Indien par métis interposé. Tant qu'on a des dieux, c'est prémonitoire. On attend le Messie, on attend quelque chose. On attend. Et puis ensuite, tout à coup, quand on passe à l'attaque, on voit que ce n'est plus l'Indien qui mène le bal. C'est au contraire des mouvements qui semblent terriblement ladins. Et finalement, on a affaire à une véritable guerre sociale. Il y aura de la répression, bien sûr, avec sa rigueur. Et puis ensuite, on peut se débarrasser du chef. C'est-à-dire Galindo, on le supprime simplement au moment où il faut le faire. Alors après, c'est relativement facile. On avait cru qu'on pouvait... Je dirais que les Tzotzil avaient pensé qu'ils avaient pu capturer les dieux des Ladinos... Et puis en même temps s'emparer de sa puissance pour mieux les asservir. On a l'impression d'un retournement de rôle. Mais la cruelle expérience qu'ils ont vécue, eh ben c'est celle que vivent toujours les Indiens de Mésoamérique ou de toute l'Amérique précolombienne ou même actuelle. Et ils l'ont toujours fait depuis le XVIe siècle. Et même quand on voit que l'histoire se répète, rappelez-vous, Quetzalcoatl, Cortés, on a un peu l'impression que l'histoire vient de se répéter une nouvelle fois. Et chaque fois qu'on ouvre un sujet historique sur ces rébellions, ces guérillas, ces problèmes de troubles qui secouent tous les pays d'Amérique latine lorsqu'il y a un monde indien, on a pratiquement la même solution. On a du messianisme, mais tout à coup, le mouvement tombe comme un soufflet parce qu'il y a le petit grain de sable, le galindo de service qui vient se glisser dans ce monde magique et est quand même totalement parallèle au nôtre, finalement.
Et dimanche prochain, nous resterons à Chamoula ?
Je ne sais pas. On ira se balader certainement dans un monde toujours aussi mexicain. On prendra nos sandales d'indigènes pour aller voir ailleurs, peut-être un site, peut-être une ville, en tout cas des paysages et un peu d'histoire.